À voix nue. Cette semaine, Camille Jusot rencontre Hubert Reeves. Ce soir, passeur d'étoiles.
Bonsoir Hubert Reeves.
Bonsoir Camille.
Depuis le début de cette semaine, vous nous recevez chez vous. Et ce soir, sur la table basse à côté de nous, je vois des piles de livres. Et parmi ces livres, il y en a un dont je distingue une belle couverture noire, d'un format à peu près carré. Et au centre de l'image, il y a un petit objet blanc. Quel est cet objet, Hubert Reeves ?
Alors, c'était le but d'un projet qui a pris 15 à 20 ans, je ne me souviens pas exactement. C'était d'aller se déposer sur une comète. Les comètes, c'est connu depuis l'Antiquité. Chaque fois qu'une comète passait, on pensait que ça annonçait une mauvaise nouvelle. Ils étaient, en principe, annonciatrices de mauvaises nouvelles. Ce sont des corps qui viennent de l'extérieur du système solaire ou à la frontière du système solaire et qui viennent faire le tour du soleil, donc qui éclairent nos nuits pendant un certain temps parce que, comme ce sont des blocs de glace, quand ils s'approchent du soleil, la glace fond et il y a des jets de gaz qui sont émis qui sont les fameuses queues de comètes.
Comment s'appelle cette petite comète qu'on voit au centre de cette image toute noire?
Oui, elle s'appelle Yuri. Elle a été découverte il y a plusieurs années par des astronomes russes. Et quand est venu le temps de choisir une cible, c'est-à-dire quand on s'est dit, il y en a plein des comètes, on a le choix, mais il y en a qui sont plus faciles à atteindre que d'autres. Et celle-là se présentait bien. Donc le projet a été fait ici, en France, ailleurs en Europe. Et ce projet consistait à envoyer une sonde à 500 millions de kilomètres. 500 millions de kilomètres, ça veut dire que ça prend à peu près 20 ans, disons.
Alors, est-ce qu'on peut feuilleter un petit peu ce livre? Parce que là, ce sont des images réelles, en fait. Ce sont des images qui ont été rapportées par l'homme sur Terre d'un objet aussi lointain que les comètes.
C'est... Oui, je pense que c'est un exploit d'une grande importance que ce fait d'être non seulement allé faire le tour de la comète, ce qu'on avait déjà fait, une autre comète, mais cette fois, au contraire, de se déposer dessus et de voir de quoi c'est fait. Moi, je me souviens, pendant longtemps, on disait c'est une boule de neige. C'était une boule de neige sale. Parce que, comme il y a des jets qui sortent continuellement, ça semblait être ça. En fait, il n'y a pas beaucoup de neige. Il y a surtout des cailloux. C'est de la pierre. Et c'est de la pierre qui est là depuis le début du système solaire. C'est en ce sens que ça nous intéresse, c'est que ce sont des corps qui n'ont vraisemblablement pas été altérés depuis la naissance du système solaire, il y a 4,5 milliards d'années.
Alors parmi ces images présentées dans ce livre, il y en a une qui vous plaît particulièrement, Hubert Reeves?
Ben, j'aime beaucoup celle-ci. Celle-ci, d'abord ce qui est intéressant, c'est de voir que à ces endroits, le ciel est noir, vraiment noir. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de rien qui puisse briller dans le ciel. Et d'autre part, de voir que ça ressemble un peu à de la caillasse. Vous n'auriez pas été étonné dans une promenade dans le désert et vous aviez trouvé ces formes-là.
Sur l'image de la couverture, on voit aussi un petit jet de lumière.
Alors, ces comètes donc, sont des blocs dans lesquels il y a beaucoup de glace, effectivement. Ils sont généralement très loin du Soleil, au-delà du système solaire. Mais quand ils approchent, la glace dont ils sont formés fond et se sublime, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle se transforme en gaz. Et c'est ça qui fait les queues des comètes, ces queues qui ont fait tellement peur dans le passé qu'on pensait que c'était la fin du monde.
Son éditeur, Xavier Barral, n'a eu de cesse tout au long de sa carrière de publier des très beaux ouvrages à la frontière justement des sciences et des arts. Il est disparu récemment en 2019. Et dans la préface, il dit ces mots « Les images collectées font partie du trésor de ces découvreurs. Leur lecteur nous invite à reconsidérer nos références terrestres. Sur 67P, Yuri, ce qui semble solide peut s'avérer d'une grande fragilité. »
C'est vrai que c'est pas ce à quoi on s'attendait. On s'attendait à quelque chose de plus ferme, une boule, comme une petite planète, une boule qui a une queue. On s'attendait pas à trouver des rochers qui sont tellement déformés, travaillés, qui font beaucoup plus proche du tas de cailloux que d'une sphère, disons. C'est pas très gros, une comète. C'est peut-être la dimension d'une grosse montagne, par exemple. Le Mont Blanc, ben, évidemment, pour nous, c'est gros, mais à l'échelle des étoiles et des galaxies, c'est peu de choses. Et surtout, c'était ces mystérieuses queues dont on se demandait ce que c'était. Là, on commence à comprendre un peu plus.
Pour votre premier livre, Hubert Reeves, Patience dans l'azur, vous souhaitiez au départ qu'il y ait des grandes planches photographiques. Mais finalement, la publication qu'on connaît n'en contient pas. Pourquoi ?
Question d'éditeur, question de coût, sans doute. Il a fallu se contenter de ce qui était possible.
Mais pour vous, c'était important qu'il y ait ces images. Pourquoi
ces images sont importantes et elles existent. Elles sont dans tous les musées, ou ici au Palais de la Découverte, ou bien à la Villette. Mais évidemment, on ne peut pas en faire des livres de cette dimension.
Parce que ça fait rêver aussi, en fait, les images.
Absolument, oui, tout à fait.
Là, on vient très récemment d'observer pour la première fois un trou noir, Hubert Reeves. Quelle a été votre réaction ?
Oui, c'est le moment où on découvre une chose pour la première fois, et surtout le fait que cette idée des trous noirs, qui a été inventée par Einstein dans les années 1910-15, je ne me souviens pas, c'était au départ une théorie. Et de trouver que le comportement de ces trous noirs existe, c'est une confirmation de la valeur de la science en général, qui sont par exemple les idées des trous noirs. Ça vous donne confiance dans la science.
Alors la poésie que l'on trouve dans ces images, Hubert Reeves, dans ces grandes images de l'univers, on la retrouve aussi dans les titres de vos livres, puisque « Patience dans l'azur », c'est un poème de Paul Valéry, « L'heure de s'enivrer » un peu plus tard, en référence à Charles Baudelaire.
Oui.
Comment choisissez-vous ces titres et pourquoi vouloir mettre de la poésie dans vos livres qui auraient tout aussi bien pu s'appeler « Évolution cosmique » ?
Oui, c'est ça. L'idée, c'était de dire, on découvrait là, au travers, la science découvre là des choses fantastiques, des choses qui sont merveilleuses. Et je trouvais que d'utiliser tout ce qu'ajoute le langage poétique était plus en accord avec ce qu'on voyait. Je voulais un accord entre l'aspect scientifique rationnel, ça, le langage scientifique, ça va, mais là, tout d'un coup, ce qu'on découvrait de cette histoire de l'univers, ça me paraissait plus mérité une terminologie qui appelait plus à l'imagination. Vous voyez, quand les mots « patience dans l'azur », ça n'est pas très spécifique, mais quand vous avez le titre « Évolution cosmique » et que vous rajoutez « patience dans l'azur », ça prend une toute autre dimension, la dimension de temps. Vous dites, tout le temps que ça prend la patience, ça fait appel au temps, et dans l'azur, ça veut dire dans le ciel. Donc l'idée, c'était, il se passe des choses fantastiques dans le ciel. Ce qui était relativement nouveau, les astronomes du passé étaient un peu moins émotifs là-dessus. Ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est que notre rapport, justement, avec ce ciel mérite d'être plus que simplement un rapport scientifique, mais un rapport qui touche à notre perception d'émerveillement.
Comment se fait l'écriture de ce premier ouvrage de vulgarisation, vraiment avec l'ambition d'être grand public ? Où est-ce que vous l'écrivez ? Vous l'écrivez chez vous ? Comment se passent ces mois d'écriture ?
Ça a été des années. Ça a été des années d'écriture. Et c'est quelque chose que j'ai travaillé continuellement, essayer de compacter dans ce livre, compacter l'histoire de l'univers, mais avec un langage qui soit à la hauteur poétique de ce qui se passait. Donc j'étais beaucoup aidé, des amis m'ont suggéré des choses, c'est un peu un travail de groupe, mais pour moi ça a été très important de faire cela, de ne pas s'en tenir à un langage de ce qu'on appelle des précis d'astronomie. Dans un précis d'astronomie, vous trouvez la distance des planètes, la distance, vous trouvez tout ça. Mais il y a plus d'existentiel dans le fait que c'est chez nous que ça se passe, que nous sommes dans cet univers, que nous sommes les habitants de cet univers.
Alors, Aujourd'hui, vos livres, vous en avez publié plus d'une vingtaine. Ils se vendent à des millions d'exemplaires. Mais au tout départ, Hubert Reeves, d'où vous vient ce goût pour les histoires? D'où vous vient l'envie de raconter le cosmos presque comme un conte?
Oui, alors ça me vient de ma grand-mère. J'avais une grand-mère qui était une grande conteuse d'histoires. Et on vivait dans un village. Et les enfants du village venaient s'asseoir et elle racontait le petit Poucet, Riquette à la houppe, mais toujours en brodant, comme elle disait. C'est-à-dire que après avoir raconté l'histoire du petit Poucet, le retour à la maison, les histoires qui suivaient, c'était la suite. Riquette à la houppe, par exemple, c'était un des frères du petit Poucet. Et elle inventait comme ça continuellement. Et je sentais, dans sa façon de la raconter, que ça lui plaisait beaucoup de le faire. Elle faisait ça un peu comme... Oui, et moi, ça m'enchantait, de toute façon. Et donc, quand j'ai commencé à faire de l'astronomie, je me suis dit, ben là aussi, il y a des belles histoires à raconter. Et j'ai suivi ses exemples, sa façon de raconter l'histoire. Mais là, cette fois, pour parler d'étoiles, de galaxies, de comètes, de tout cela.
Hubert Reeves, lorsque vous êtes étudiant, que vous traversez le Canada en train, que vous allez dans le nord du Québec pour observer les aurores boréales la nuit, lorsque vous remontez le fleuve Saint-Laurent, est-ce que vous avez avec vous un carnet de notes où vous consignez vos expériences?
Non, je n'ai pas de... J'ai un journal. Je note jour par jour ce qui se passe, ce que je vois, les gens que je rencontre. Mais ce n'était pas un voyage scientifique. L'année était terminée, c'était les vacances. Il y avait l'offre de ce qu'on appelle un job d'été pour les étudiants que j'ai réussi, j'ai été accepté. Et pour moi, c'était fantastique.
Et lorsque vous voyez quand même toutes ces les paysages qui défilent le long du train, c'est donc ces aurores boréales magnifiques, vous vous en émerveillez. C'est cet émerveillement-là que l'on ressent dans chacun de vos livres aussi, en plus de la grande histoire du cosmos.
C'est vrai que j'ai essayé de mélanger les deux, un peu mon histoire à moi, l'histoire d'un jeune étudiant qui découvre le ciel, qui découvre un grand pays. On a traversé le Canada en train, ça prenait 4 jours pour traverser le Canada en train. Très beau voyage, et tout ça pour moi c'était formidable.
Hubert Reeves, les histoires que vous écrivez, vous les racontez aussi? Est-ce que ça commence par les histoires que vous dites à vos enfants, puis aujourd'hui à vos petits-enfants?
Oui, c'est vrai aussi. Très souvent, on sortait la nuit pour voir les étoiles et je sentais que ça était tout à fait... Et j'ai mon fils qui continue dans le même sens maintenant, qui fait aussi des conférences. Je me souviens de ce proverbe, ce dicton qui vient de la Bible, « Vous n'êtes que cendre et poussière ». C'est dévaloriser la valeur de l'être humain. Et un jour, j'ai reçu d'une dame qui avait acheté mon livre, on m'avait dit « Tu n'es que cendre et poussière », on ne m'avait pas dit « poussière d'étoile ». Vous voyez, ça change tout l'optique sur ce qu'est l'être humain qui n'est plus considéré comme pendant longtemps, comme rien du tout, un déchet. Nous n'avons pas de place ici, nous sommes de trop. Ce langage des existentialistes, nous sommes de trop, nous n'avons pas de raison d'exister. Nous sommes que le fruit du hasard et tout ça. Et tout d'un coup, vous découvrez derrière cela une longue histoire très complexe et très riche, justement, qui amène de la matière jusqu'à l'intelligence, jusqu'à la conscience, jusqu'à l'envie de chercher, l'envie de connaître. Et c'est quelque chose qu'il faut nourrir. Si vous ne le nourrissez pas, les enfants, vers l'âge d'une dizaine d'années, vont s'intéresser à tout cela. Si vous ne leur donnez pas la nourriture, c'est-à-dire les résultats que la science nous a donné, il risque de passer à côté et de l'oublier. Donc, pour moi, il y a comme une responsabilité de la part des scientifiques de faire connaître les choses fantastiques qu'ils ont pu découvrir. D'une part, parce que ça coûte de l'argent, et donc c'est un juste retour des choses que les scientifiques ayant acquis de l'argent pour faire des télescopes puissent ensuite revenir sur la scène et dire, maintenant on va vous faire un rapport, on va vous dire qu'est-ce qu'on a trouvé et en quoi ça vous touche, en quoi ça vous touche personnellement, pas simplement rationnellement, mais existentiellement. Votre rapport avec les étoiles, c'est quand même pas rien.
C'est quand même pas rien. Et Hubert Reeves, d'ailleurs, dans vos textes, il y a beaucoup de personnel, puisque vous interrogez aussi, au-delà de l'astronomie pure et dure, la religion, la psychanalyse, l'écologie.
Oui.
C'est vos expériences propres que vous mettez là en exergue.
Oui, d'une certaine façon, j'écris avec mon expérience. Ça, c'est essentiel. Je ne veux pas m'en tenir à donner des faits, à donner des chiffres. Un jour, je faisais une conférence et arrive devant la table un monsieur en chaise roulante, mais alors vraiment déformé, quelqu'un qui avait une poliomyélite ou quelque chose comme ça, et qui me dit au travers de son appareil, parce qu'il parlait pas, il me dit, depuis que j'ai lu et appris ce que vous racontez, j'ai cessé d'envie de me suicider. Vous voyez, ça, c'est vraiment une chose importante. Quelqu'un qui vous dit, c'est grâce à ce que vous m'avez enseigné que je suis content de vivre. Ça, c'est pour moi des choses valables. Je crois que cette idée d'aider les gens à vivre, que la vie est difficile, nous le savons, qu'il y a la guerre, qu'il y a l'horreur, qu'il y a tout ça, mais il y a en parallèle cette histoire de l'univers, de la croissance, de la complexité, de l'apparition des êtres vivants et tout ça, qui fait que c'est un tout. Mais c'est bien d'en connaître tous les aspects. Si on ne vit que, comme on a dit pendant longtemps, le plus grand malheur que vous puissiez avoir, vous l'avez déjà eu, c'était de naître. Ça, c'était Schopenhauer. Et l'autre qui ajoutait, et le second plus grand malheur que vous aurez, c'est de mourir, et de toute façon, vous mourrez. Vous voyez ce discours un peu nihiliste qui a dominé beaucoup le 19e siècle. On le relit maintenant en y ajoutant des données qui étaient inconnues à cette époque, c'est-à-dire le fait que l'univers est une histoire, et ça prend une toute autre allure. Je ne dis pas qu'il ne reste pas des choses pénibles, mais il reste des choses merveilleuses.
Alors, Hubert Reeves, vous faites des conférences à travers le monde entier. Vous essayez aussi à la radio. Vous avez, sur cette antenne à France Culture, tenu une chronique merveilleuse en 2003 et 2004. Mm-hmm. Vous faites aussi les plateaux télé. Quel est votre premier souvenir de plateau télé, justement?
Le premier souvenir de plateau télé, c'était au Canada. Et il y avait un débat sur les soucoupes volantes. Et on a donc un débat avec deux groupes, un groupe qui était plutôt sceptique, j'étais dedans, et l'autre qui était des gens un peu évaporés, disons. Et ça m'a paru très intéressant de discuter justement à la télévision, parce que ça fait partie des connaissances qui doivent être répandues.
Largement.
Largement, oui. Non pas que je pense qu'il faille combattre les gens qui sont de notre côté, ça sert à rien. Vous perdez votre temps si vous essayez de leur prouver que la planète Vénus n'a pas d'influence sur votre corps. C'est plutôt de dire qu'il y a des choses extraordinaires, crédibles. Si vous dites des choses extraordinaires comme du paranormal et des choses comme ça, vous restez toujours, vous n'êtes jamais tout à fait certain que ce qu'on vous dit est valable. Mais si vous parlez du soleil et de sa vie et des choses comme ça, c'est crédible par un esprit critique. C'est-à-dire un esprit qui ne se laisse pas raconter n'importe quoi et qui veut avoir des preuves. Ça, c'est très important dans la maturité d'une personne de cesser de raconter des contes de fées. C'est très bien, des contes de fées, mais de ne pas les prendre pour la vérité et au contraire être beaucoup plus critique sur ce plan. Et la science, l'astronomie a les deux versants. Le versant de la merveille, si vous parlez des étoiles, les gens sont émerveillés, de toute façon, c'est quelque chose, c'est un pays de rêve, disons. Mais en même temps, vous êtes dans la rationalité. Et avec même la distance de dire, c'est à peu près certain, pas tout à fait certain, vous voyez, cette étude critique devant des données, de dire, il n'y a pas vrai, faux. Il y a des choses qui sont plus ou moins certaines, ça évolue avec le temps, des choses nouvelles, comme par exemple, vous avez parlé là des trous noirs. Eh bien, voilà un événement important aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons une confirmation magnifique de l'existence des trous noirs, qui ont été longtemps passés pour des fantaisies, de l'imagination. Puis il faut dire qu'un trou noir, c'est vraiment tout à fait étrange. Je connais aucun romancier qui ait jamais fait une invention aussi étrange, aussi absurde, si on veut, entre guillemets. Et pourtant, vous la voyez confirmée. De même qu'on a confirmé l'existence des ondes gravitationnelles il y a quelques années. Et ça aussi, ce sont des étapes qui vous disent que l'esprit humain a une très grande puissance. C'est pas une puissance infinie, mais il va très loin et poursuit cette recherche depuis les Grecs, 6e siècle avant Jésus-Christ. On a appris beaucoup de choses grâce à la science et beaucoup de ces choses sont crédibles.
Une autre émission de télé a son importance dans votre parcours de vulgarisateur. C'est une émission française avec Bernard Pivot, apostrophe. Mm-hmm. Est-ce que vous vous rappelez ce moment?
Oui, très bien. Pour moi, c'était formidable. C'était après la publication de Patience dans l'azur. Et ce livre, j'ai eu beaucoup de difficultés à le faire accepter. Je l'ai présenté à au moins 30 maisons d'édition qui m'ont toutes répondu la même chose. L'astronomie, ça n'intéresse personne. Et j'allais le mettre dans mon tiroir, mais si ça intéresse personne, tant pis. Lorsqu'un physicien, ami de moi, Jean-Marc Lévy-Leblon, a inauguré aux éditions du Seuil une collection qui s'appelait « Science ouverte ». Ça veut dire on publie des livres qui ne sont pas simplement des résumés de science, mais au travers desquels on peut voir la personne qui a écrit le livre. Vous voyez, c'est un peu, vous décrivez votre histoire au travers de l'apparition des choses que vous avez influencées ou non, mais c'est pour ça que ça s'appelle science ouverte. Ça parle d'une personne, pas seulement de la science. Et c'est lui qui a réussi, donc, à imposer ce livre en me disant que probablement que ça serait pas génial, ça serait pas. Mais ça a été un grand succès grâce à Bernard Pivot qui a fait cette émission en 81 et ça a bien marché après.
Et on connaît la belle histoire qui a suivi puisque vos livres se vendent très bien. Et vos textes, Hubert Reeves, je crois que vous les écrivez en musique. La musique tient son importance, vous nous l'avez dit, dans votre vie, une grande importance.
Oui.
Est-ce qu'il vous serait possible d'associer chaque livre à un concerto, un thème, une œuvre musicale?
Oui, c'est vrai ce que vous dites, mais c'est pour la fin du livre. Parce qu'un livre, je l'écris un peu comme ça, sans faire attention ni au style, ni ces choses-là. Puis après ça, je le relis plusieurs fois pour le corriger et pour lui donner du rythme, pour que ça soit quelque chose qui, dans lequel il y a un rythme musical et de préférence un rythme emporté. Et en particulier, pour ce qui est de Patience dans l'azur, c'était le livre de Valérie qui était justement ce livre-là. Pour un autre livre, ça a été Così fan tutte de Mozart, parce que j'aime cet opéra, il est très emporté. Vous entrez dedans et vous ne pouvez plus lâcher tellement les airs. Et donc, ce que j'ai fait plusieurs reprises, la dernière version, je me la lis à haute voix avec la musique sur mon appareil. Et ça porte. Tout d'un coup, vous dites une phrase, vous voyez que ça colle pas, vous n'êtes plus dans l'élan. Donc, vous reprenez la même phrase sans changer les idées sont là, mais c'est ça, c'est quelque chose qui... Le mot qui va bien, ça vous charrie. Vous êtes emporté dans cette lecture. Et c'est au moment où je peux lire le livre avec la musique que je me dis, c'est prêt.
C'est prêt, je peux l'envoyer à l'éditeur.
Oui.
Hubert Reeves, quel est votre plus beau souvenir de conteur?
Mon plus beau souvenir de conteur... je vais vous raconter une histoire. Alors, ça se passe en Arabie Saoudite, à Riyad. Et on me demande de faire une conférence sur l'origine de l'univers. Je dis, bon, d'accord, je vais parler du Big Bang. J'arrive dans la salle, que des hommes. Ça, pour être sûr, en Arabie, que des hommes. Tous des hommes avec l'espèce de toge là, et le kaffir au-dessus. Et au moment où j'allais commencer à parler, un de ces hommes s'approche de moi et il dit, j'ai quelque chose à vous dire, ne parlez pas du Big Bang, hein, ça ne passe pas bien ici. J'étais embêté, qu'est-ce que je vais faire? Juste avant la conférence, il me dit, ne parlez pas du Big Bang. Alors, je me dis, bon, ben, je vais improviser, je vais parler de l'histoire de la Terre. C'est moins litigieux que l'histoire de l'univers. Et je raconte l'histoire de la Terre. Et à ce moment-là, je passe aux questions. Et je vois un homme grand, debout, à l'arrière de la salle, qui me dit, puis-je aller vers vous? Il arrive, il avait entre les mains un grand livre, comme ça. Il dit, vous voyez ce livre? Moi, je me suis dit, ça doit être le Coran, il va m'assassiner un coup de Coran. C'était « Patience dans l'azur ». Il me dit, « On vous a demandé de parler du début de l'univers. Pourquoi vous n'avez pas parlé du début de l'univers ?» Et c'est là que j'ai découvert que dans cette salle, il y avait deux groupes de personnes totalement différentes, mais il y a ceux qui sont pour entrer dans le monde moderne et ceux qui sont pour rester dans la tradition. Là, tout d'un coup, je comprenais ce qui se passait. Bon, après, j'aurais parlé du début de l'univers, ça a marché. Mais ça, c'est des moments qui vous laissent, quand vous voyez quelqu'un qui s'approche de vous avec...
Parmi vos derniers livres, Hubert Reeves, on trouve « Oiseau, merveilleux oiseau »,« Mal de terre »,« J'ai vu une fleur sauvage »,« Le banc du temps qui passe »,« Malicorne ». Et nous vous retrouvons demain pour un dernier entretien où vous nous emmènerez dans votre jardin de Malicorne en Bourgogne, au milieu des fleurs sauvages, pour parler environnement. Merci Hubert Reeves.
Merci, merci Camille.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Camille Jusot avec Hubert Reeves. À voix nue, réalisation Lionel Quentin, prise de son François Rivalan, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.